Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 11 janvier 2023. Vous écoutez Au fil des pages sur Radio Libertaire, merci de nous rejoindre sur ces ondes. Et nous commençons tout de suite avec un peu de musique classique pour nous évader, accompagné d'Eric Satie, Gnossienne numéro 1. Frédéric, c'est parti. Eh bien, tout d'abord, bonne année, une bonne année à toutes et à tous, une bonne année de lutte qui commence très fort avec un projet soutenu par ce gouvernement, lui-même soutenu par LR, comme quoi les alliances de classe, ça sert et ça se révèle dans des moments clés quand il s'agit de remettre en cause les droits des salariés et les conquêtes sociales. On est en plein dedans. Évidemment, nous soutenons tout à fait la lutte et nous sommes très heureux notamment d'être là le 19 janvier dans les manifestations et nous ferons tout notre possible pour tenir les directs dans le cadre de notre émission. Alors, au fil des pages, vous savez que c'est une émission qui est proposée par des passionnés du livre et de la lecture et aujourd'hui, Frédéric, Dominique, moi-même, Francis, Marie. Marie passe ses examens d'étudiante, elle nous rejoindra fin janvier. Et donc de 17h, un petit peu plus là, à 18h30, eh bien nous débattons sur les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, sur la diversité des livres qui peuvent sortir. Alors, nous démarrons l'année avec de belles et passionnantes lectures. Mais avant ça, Frédéric, est-ce que nous avons des annonces ou pas ?
Oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié d'ouvrir le micro. Alors voilà, le ciné de la commune vous propose le mercredi 18 janvier à 20h à la librairie Publico, 145 rue Amelot, le documentaire « Nous ne vendrons pas notre avenir » de Niki Velissaropoulou, pardon, excusez-moi. Alors, je vais vous lire le rapide synopsis. C'est un projet de mine d'or à ciel ouvert dans le nord de la Grèce qui menace une région d'un désastre environnemental, économique et social colossal. Plongés au cœur d'un combat de la crise, les habitants de la région se mobilisent pour préserver leur pays et revendiquer leur avenir, un autre lieu, mais toujours une ZAD face à un grand projet inutile. Et bien sûr, ce documentaire sera poursuivi par un débat avec l'autrice qui sera présente ce soir-là. À part ça, bien, je repasse le micro à Francis.
Alors, aujourd'hui, deux temps importants. Tout d'abord, pour alimenter le débat, quelques livres sur le, entre guillemets, « bon temps des colonies », comme il disait, avec un livre d'André Gide, « Voyage au Congo », un autre d'Albert Camus, « Misère de la Kabylie », et puis un auteur, Gilles Zerlini, « Lettres à mes fantômes », un livre sorti chez Nado. Édition Maurice Nadeau en 2022. Ensuite, nous aurons un temps fort dialogue avec Victor Cachard pour ses deux livres consacrés au sabotage. Et dans la dernière demi-heure, eh bien, nous présenterons. D'abord, Frédéric présentera un roman qui lui a bien plu. Puis, j'aborderai Dominique présentera un livre, Anna de Noailles, Le cœur innombrable. C'est le premier recueil de poèmes de cette grande écrivaine et en même temps féministe. Et j'aborderai le livre de Florence Moreau, Léon Ginsburg, un intellectuel contre le fascisme en Italie. Donc, la question des colonies, c'est une question qui est sensible. Alors, on en a déjà parlé, la guerre d'Algérie, on en a déjà parlé, et il est des livres dont on parle et que l'on n'a pas forcément lu. Et pourtant, ils pèsent parfois des années après leur publication dans le débat public et les références militantes. Il en est ainsi du livre d'André Gide, Voyage au Congo, réédité par les éditions du Détour. Une heureuse initiative. Il rejoint à ce titre le reportage d'Albert Londres, que vous connaissez certainement, intitulé « Terre d'ébène », ou encore le rapport Braza dans la dénonciation de l'exploitation des Africains de leurs terres, de leurs richesses par des compagnies concessionnaires, notamment du caoutchouc, et soutenues par l'administration française. Et il faut bien dire que, y compris au sein des parlementaires de gauche, peu se mobilisaient contre ces compagnies. Alors, parti comme un touriste, ne sachant pas ce qu'il va découvrir, Gide admire les paysages, la nature, les papillons, les corps. Et puis, au fur et à mesure de son parcours, s'échelonnant sur 1926 et 1927, dans l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire le Tchad, le Gabon, l'Oubangui-Chari, le Moyen-Congo, il découvre l'odieux. Je cite. Désormais, une immense plainte m'habite. Je sais des choses dont je ne puis prendre mon parti. Quel démon m'a poussé en Afrique? Qu'allais-je donc faire dans ce pays? J'étais tranquille. À présent, je sais, je dois parler. Gide va parler. Alors, chacun goûtera l'élégance du style de Gide, la richesse de son vocabulaire, son sens de la littérature, une sorte d'intellectuel transformé en explorateur. Un régal à ce stade-là de notre lecture. Et puis la réalité se dévoile. Et comme le souligne dans sa préface Hélène Blais, spécialiste de l'histoire coloniale, il s'extrait petit à petit de sa gangue d'Européens sûrs de la supériorité de sa civilisation. Certains de ses propos racistes ou liés à des préférences sexuelles à l'égard des enfants sont évidemment inacceptables de nos jours. Le style et le vocabulaire est celui de l'époque. Il parle des nègres, des noirs. Il considère que l'entreprise se justifie par le bien-être qu'en retireront ceux qui ont souffert jusqu'à en mourir. Ainsi, quand même rappeler que la réalisation de la voie ferrée Congo-Océan se traduit par la mort de 20 000 Africains, sans compter les personnes handicapées à vie. Il ne remet pas en cause le principe du colonialisme. Il en dénonce les abus. Et sa position d'intellectuel, au fait de sa gloire, donne un écho plus fort à ses propos. Attention, ce n'est pas un brûlot, mais les dénonciations en auront encore plus de poids jusqu'à être utilisées dans les débats parlementaires à la Chambre des députés. Et oui, il y en a quand même quelques-uns, j'ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns qui vont interpeller le gouvernement. Mais il faut dire que Gide a su distiller ses propos dans plusieurs numéros de la nouvelle revue française qu'il dirigeait, qui était à l'époque une revue qui comptait. Et présenté comme un journal, le texte décrit l'arrivée à Dakar le 25 juillet 1926. Et un mois après, une phrase. Moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête. Ouais, ça, c'est un grand classique. À défaut de cette intelligence, pour imposer aux indigènes, on recourt à la force précaire, spasmodique, dévergondée, on prend peur, on s'affole, et par manque d'autorité naturelle, on cherche à régner par la terreur. Tout est là. Soyons clairs, pas de rejet du colonialisme, mais de ses abus. Lesquels ? Les impôts injustes, le système du portage qui épuise les hommes, l'emprisonnement des femmes et des enfants pour obliger les hommes à travailler. Vous lirez tout cela ! Les violences et la mise en esclavage de toute une population. Je cite, « Ils font et feront tout pour fuir le portage dont ils ne veulent plus, ils préfèrent tout actuellement, même la mort au portage. » Alors, les compagnies prétendent qu'il faut agir ainsi et déverseront des calomnies sur Gide lors de l'apparition de ces articles. Celui-ci leur répond, « Il n'y a plus ici d'il fallait qui tienne. Ce mal est inutile, il ne le faut pas. » À partir du 29 octobre 1926, Gide reçoit les doléances des habitants, constate les faits, les rapporte froidement, ce qui ajoute à la puissance de la dénonciation. Il veut voir, et c'est une sinistre litanie. « Je veux passer dans les coulisses de l'autre côté du décor, connaître enfin ce qui se cache. » Cela fut-il affreux ? C'est cet affreux que je soupçonne et que je veux voir. Le combat sera long pour sortir du colonialisme. L'envoi en première ligne des troupes indigènes pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, l'exploitation des terres et des habitants, la répression avec une immense violence à l'égard des manifestants, seront des attitudes communes à l'égard de tous les pays colonisés par la France. La France aura le même comportement violent partout. Certains auteurs considèrent que nous vivons aujourd'hui une ère de post-colonialisme et je renvoie à cet effet à une chronique que j'avais présentée dans Des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire du 29 novembre 2021 et le livre s'appelait L'Empire, et s'appelle toujours L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Le livre était sorti chez Au Seuil. Alors, je rappelle, André Gide, Voyage au Congo, édition du Détour 2022. Terre d'Ébène, Albert Londres, Petite Bibliothèque Payot 2022. Le rapport Braza, Commission Lassenant, édition Le Passager Clandestin 2018. Et puis, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, un ouvrage collectif paru au Seuil en 2021. Alors, voilà, donc ça c'est un premier livre pour dénoncer le comportement de la France et des colons et des compagnies en Afrique noire. Mais il y a aussi une autre grande voix qui va s'élever. C'est évidemment Albert Camus, je viens de le dire, pour dénoncer la misère de la Kabylie. Soyons clairs, on ne pouvait pas dire que l'on ne savait pas. On ne pouvait pas dire que la misère de la population kabyle était inconnue des administrations, des colons qui les exploitaient. Un homme, Albert Camus, écrit. Un journal, Alger Républicain, publie la réalité dans une série d'articles désormais rassemblés et accompagnés des photos du moment, grâce au travail des éditions Domance. Certes, certains articles étaient déjà connus par le livre Chronique algérienne qui était paru chez Gallimard, mais l'originalité de cet ouvrage, Misère de la Kabylie, réside dans le lien étroit entre les mots et les photos qui montrent le talent journalistique d'Albert Camus. Ce ne sont pas de simples illustrations plaquées sur une page pour équilibrer un texte. Vous savez, on a ça parfois dans les journaux, on ne sait pas comment combler, ben c'est pas grave, on met une photo de n'importe quoi. Mais c'est bien la preuve des écrits de l'insoutenable misère. Je cite Camus. Le lecteur réalise que la photo crée en Algérie, une rupture avec les usages de la presse locale destinée aux Français. 13 clichés font voir ce que l'on sait, mais que l'on ne veut voir. Camus, en rejoignant Alger Républicain, adhère à la thèse suivante. Nous réclamons l'égalité sociale immédiate de tous les Français, quelle que soit leur origine, leur confession ou leur philosophie. C'est pourquoi nous réclamons l'acheminement des indigènes d'Algérie vers l'égalité politique. Nous sommes en 1938. Et pour se lancer dans cette grande enquête sur la misère en Kabylie, qui va être publiée du 5 au 15 juin 1939, Camus va se documenter. Pas question de présenter une vision touristique de cette Kabylie, par ailleurs fort belle. Il faut montrer la vraie vie. Il faut l'écrire, dit-il, sans tarder. La misère de ce pays est effroyable. Son projet, d'écrire la misère, il sera évidemment à la hauteur. Mais attention, il faut savoir être prudent. Ce que, je ne vous cache pas, je ne savais pas, le décret Régnier, sanctionne, donc un décret français, publié au journal officiel de la République française, sanctionne pénalement toute personne qui critique la souveraineté française et les lois afférentes. Il faut donc ruser pour passer au travers de la censure. Et Camus utilise toutes les figures de style, langage oblique pour dénoncer et appuyer sa vision d'une fédération des peuples, guère éloignée de la culture et de l'histoire kabyle, vous lirez. Il dénonce l'absurdité coloniale qui maintient en précarité permanente des hommes, des femmes, des enfants. La froideur des chiffres est implacable, il faut les lire. La distribution des grains à la veille des élections locales pour acheter les voix, c'est pitoyable. La misère, le cri de Camus, encore une fois, qu'avons-nous fait pour elle? Qu'avons-nous le droit de nous détourner d'elle? Eh oui. Chaque article traite d'une injustice, il en est ainsi du travail. Les chantiers de charité relèvent d'une forme d'esclavage en faisant travailler des personnes mal nourries, à la production défaillante, critiquées par les colons. Camus dénonce les préjugés odieux et le mépris général où le colon tient le malheureux peuple de ce pays. L'hygiène et le système de santé sont pitoyables. Le manque d'eau, un médecin pour 60 000 habitants, l'absence de structures de soins. Camus montre bien les liens entre les causes. C'est dire aussi qu'en Kabylie, il n'y a pas de problème isolé et ils se résument tous dans le relèvement du niveau de vie de ce pays par sa mise en valeur. L'enseignement est lamentable, pas d'enseignants, des classes de 60 à 80 élèves, des écoles de propagande rutilantes qui cachent dans les villages, la misère des locaux. Un peu comme les villages à la Potemkine, vous savez, vous connaissez la formule. Pour Camus, il faut faire tomber les murs entre les gens. Il refuse le caïda et considère que c'est aux Kabyles de décider de leur avenir. Il préconise une véritable démocratie, s'appuyant sur un regroupement de villages, forme de solidarité. Alors, au fil de ces articles, les reproductions des pages d'Alger Républicain montrent que les enjeux extérieurs vont rapidement emporter tout intérêt en faveur de la Kabylie. Tenez, dans le numéro du 14 juin 1939, à côté du texte de Camus qui dénonce des injustices en Kabylie, figurent deux articles. Le titre du premier, « Monsieur Chamberlain paraît enclin à faire de nouvelles concessions à Berlin et à Rome ». Vous savez, le Premier ministre de Grande-Bretagne. Et puis, une société pour la défense des réfugiés espagnols séquestrés au fort de Collioure se constitue à Paris. Et oui, d'une guerre à l'autre. Camus défend toujours son idée de civilisation créole, dit-il, rejetant toute forme d'intolérance. Certains propos ne sont pas sans rappeler ses sympathies anarchistes, et c'est un texte précieux qui entre dans l'histoire et qui vraiment est à lire pour qui s'intéresse à cette région, pour qui s'intéresse à ce pays et qui réfléchit sur, finalement, nos responsabilités. Albert Camus, Misère de la Kabylie, aux éditions Domins en 2020. Alors, nous sommes en Algérie. Nous sommes en Algérie et les éditions Nado nous ont présenté, j'ai eu l'occasion de les rencontrer à un salon de l'autre livre où des éditeurs indépendants essayent de faire vivre un autre livre qui ne soit pas qu'un simple produit commercial. Et ces éditions viennent de sortir un livre qui s'appelle « Lettres à mes fantômes ». C'est le titre de l'ouvrage de Gilles Zerlini. Mais quel fantôme ? L'explication en est en partie donnée en fin d'ouvrage. Une forme d'incipit à l'envers. Belle formule. Je vous laisse le plaisir de la découverte. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec l'Algérie ? Tout simplement parce que, au fil des pages, des événements, des personnages apparaissent, surgissent parfois, et en thème de base, la guerre d'Algérie, l'état d'urgence, le gouvernement français qui envoie le contingent pour pacifier ces départements. N'oubliez jamais, les départements français. Beaucoup y perdirent leur âme. Et le jeune appelé, c'est un roman tout en ne l'étant pas, le jeune appelé Ferhatch, mais vous interrogerez toujours pour savoir, oui, si c'est qui tient les propos dans le livre, qui livre ses sentiments. Eh bien, ce jeune appelé Ferhatch arrive en gare de Marseille-Saint-Charles. L'inconnu pour lui. Les bravades des gamins qui sont les appelés dont certains n'ont jamais quitté leur quartier, leur village. Affectation, régiment de chasseurs parachutistes. Sa classe. Un monde à part, ils ne l'ont pas demandé, un monde à part surnommé Bijarville. Là aussi, sa classe. Des appelés côtoyant des légionnaires au tatouage sous le bras, cachant un autre tatouage. Des légionnaires qui s'expriment avec un accent guttural. Outre leurs origines et leur passé douteux, je cite l'auteur, on craignait un peu les légionnaires, on les aimait pas beaucoup. Les bagarres étaient fréquentes lors des virées en ville pour des histoires de putes, de tournées ou d'un regard un peu trop appuyé. On ne jouait pas avec eux aux cartes. Ah oui, ça sera intéressant qu'il y ait un texte, un livre un jour qui sorte sur le rôle de la Légion au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, c'est cette découverte d'un pays. Le personnage principal se remémore son autre pays, la Corse, Ferhatch, aux liens puissants, familiaux, aux valeurs respectées à l'époque. Une très belle réflexion sur la Méditerranée. Mare Nostrum, je cite l'auteur, Mare Nostrum, notre mer intérieure, posée avec soin, au milieu des terres, comme un lac, était notre refuge, notre enceinte. Oui, c'est une assez bonne définition de ce qu'est la Méditerranée pour la Corse et pour les Corses. Et donc, justement, au milieu de la partie ouest de cette mer, une île, refuge, la Corse. Et au milieu de cette Corse, une micro-région que l'auteur ne nomme pas, mais nous sommes quelques-uns à deviner avec le nom des villages, Serra, Surbudia, Zozza, Le Piano, serait-ce l'Alta Rocca. Et Ferracci est dans son rêve, c'est là où on parle aussi de fantômes. Il est dans son rêve, il est là-bas, il est dans son village, il est dans sa micro-région, l'Alta Rocca, et un appel au clairon me réveille de ce monde perdu de l'enfance. Dommage. Oui, dommage, car c'est l'entraînement. Le conditionnement psychologique. Le mépris à l'égard de la population inculqué par des gradés qui n'ont pas supporté leur défaite en Indochine. Ça, on l'oublie un peu trop souvent. Ils veulent faire payer leur défaite en Indochine aux Algériens. Des morts des deux côtés. Des souffrances. Des représailles, des massacres et plus d'écoute possible. Rappelez-vous ce qu'écrivaient et ce que disaient nos amis que nous avions reçus début novembre de l'année dernière, des anciens combattants qui n'avaient pas supporté ce qu'on leur avait demandé de faire. Désormais, dit l'auteur, plus rien ne sera comme avant. Une évidence ? Oui, mais alors faut la lecture pour tenir ? Ah, vous découvrirez un très beau passage sur le rapport au livre et la manière dont il répand, dont l'auteur répand les pages, il déchire les pages et les répand au fur et à mesure de sa lecture. Évidemment, la torture, des scènes épouvantables dans l'écurie qui marqua jamais les Bidas. Et puis, parce que cette situation était absurde et que l'on ne peut lutter contre un peuple qui veut sa liberté, sa dignité, il faut rentrer. Un immense gâchis, un immense dégoût encore ressenti aujourd'hui. Et je pense, moi, toujours à Albert Camus, que je viens de citer précédemment. Et ces fantômes auxquels fait référence Gilles Zerlin, eh bien, dit-il, ils en rentrèrent fourbus, leur linge sale, tachés de sang et de sueur, et jamais ne furent des héros. Quelques-uns en réchappèrent, comme on dit, mais aucun n'en revint innocent. Aucun n'en revint innocent. Vraiment un livre très prenant. Il y a plusieurs livres dans le livre, c'est ce qui m'intéresse souvent dans les romans, enfin dans des livres à la fois romans, témoignages. Et donc, vraiment, Gilles Zerlini, Lettre à mes fantômes, aux éditions Maurice Nadeau, publication en 2022. Alors, comme nous sommes à la fin de la guerre d'Algérie dans cette affaire. Eh bien, on va passer une chanson qui date de cette époque, chantée par Eddy Constantine, que chantaient souvent les appelés de retour d'Algérie. Je vais revoir ma blonde, Frédéric.
La nuit tombée dans la plaine. Les feux du régiment scintillent par centaines comme des vers luisants, tandis que sous les étoiles sont croisés les fusils. Dans mon abri d'étoiles, tous mes rêves me sourient. Je m'en vais revoir ma blonde, je vais revoir mamie, puisqu'on dit à la ronde que la guerre est finie. Tous les gardes par le monde seront de mon avis. Rien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie. Dans le grenier j'irai prendre mes frusques de soldat, pour mettre sans attendre mon bel habit de drap. Et le soir comme naguère, nous jouerons du banjo, assis sur la barrière du vieux banjo au bord de l'eau. Je m'en vais revoir ma blonde, qu'au pays j'ai laissé. Lorsque le canon gronde, s'en vont les fiancés. Tous les gardes par le monde seront de mon avis. Rien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie. Quand viendront nos fiançailles, le fifre et le tambour, qui menaient aux batailles, conduiront nos amours. Je n'ai pas cherché la gloire, J'ai voulu le bonheur et ma seule victoire, c'est d'avoir gagné son cœur. Je m'en vais revoir ma blonde, je vais revoir mamie, puisqu'on dit à la ronde que la guerre est finie. Tous les gardes par le monde seront de mon avis. Rien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie. Rien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie.
Bien, passons au deuxième temps de l'émission, donc une rencontre avec Victor Cachard pour son livre, pour ses livres, Émile Pouget et La Révolution par le sabotage, ainsi que Histoire du sabotage, publiés tous les deux aux éditions Libre en 2022. Alors, on connaît les émissions, les éditions libres, puisqu'on avait déjà présenté un livre sur la prostitution qu'ils avaient publié l'année dernière et qui était un livre très, très fort, très, très, vraiment émouvant. Bon, alors, Victor est donc en ligne.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, bonjour, Victor Cachard. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Au fil des pages. Deux livres qui mettent en relief l'action d'un militant anarchiste un peu oublié de nos jours. Alors, peut-être avant de présenter les deux livres, vous avez commencé des études de philosophie contemporaine, et puis vous êtes intéressé à l'histoire des résistances aux techniques et à l'histoire des techniques de résistance. Alors, comment ça s'est opéré, ça ? Comment passe-t-on de la philo aux techniques de résistance ?
C'est une bonne question, parce que disons qu'en fait, moi j'ai travaillé en philosophie sur la cybernétique, c'est-à-dire l'ancêtre de l'informatique. Et en travaillant sur ce thème, je me suis rendu compte que les théoriciens qui ont pensé les prémices de l'informatique étaient toujours liés à des processus de gouvernementalité et de domination des populations. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement matière à explorer toutes les résistances aux techniques. Et partant, pour éviter de tomber dans des résistances passives qui sont plutôt des résistances du type du retrait de la lutte, je me suis intéressé aux techniques de résistance, c'est-à-dire plutôt au savoir subversif, aux manières de s'attaquer aux techniques plutôt que de se retirer de la société pour vivre isolé en solitaire. Mais disons que le passage de la philosophie à l'histoire s'est fait plutôt de manière contingente, parce que l'éditeur des éditions libres m'a proposé de travailler sur le sabotage, et je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt à travailler dessus, compte tenu du décalage qu'il y a aujourd'hui entre l'idée qu'on se fait du sabotage et la pratique telle qu'elle a été théorisée par les syndicalistes révolutionnaires à la fin du 19e siècle.
Alors, on va commencer par celui-là, a pour titre « Émile Pouget et la révolution par le sabotage ». C'est un recueil de textes. Vous pouvez nous en détailler le contenu ?
Oui, alors, pour expliquer ce que contient cette anthologie, la première chose à dire, c'est qu'on connaît trop souvent Émile Pouget à travers son texte phare sur le sabotage, publié en 1910 et réédité aujourd'hui aux éditions Nada. Et je cite par ailleurs une autre édition, qui est une édition plus mainstream, disons, publiée aux Mille et Une Nuits, parce qu'elle a une très bonne introduction de deux philosophes, d'ailleurs Mathieu Triclot, qui a également travaillé sur la cybernétique, et de Grégoire Chamaillou, avec cette introduction qui porte ce titre un petit peu caustique, « Comment péter un câble ?». Une très bonne édition. Or, l'idée de cette anthologie, c'est de ne pas publier ce texte de 1910, qui est réédité à plusieurs reprises chaque année, mais plutôt de regrouper tous les autres textes, articles de journaux, brochures, recommandations et exemples de sabotage, pour replacer Pouget dans son temps et retracer son parcours en tant que jeune anarchiste, jusqu'à la promotion d'un nouveau moyen de lutte avec l'apparition, pour la première fois sous sa plume, du sabotage. On peut donc dire que c'est un recueil des écrits préparatoires de Pouget sur le sabotage. Et par ailleurs, comme l'indique la deuxième partie du titre, la révolution par le sabotage, donc, c'est la deuxième partie du titre, d'autres textes, d'autres auteurs, illustrent les grandes dates du sabotage et montrent que la pratique connaît une élasticité considérable, si bien qu'on peut faire varier les actes de sabotage à l'infini. Je pense notamment au sabotage des cheminots lors de la grève de 1910 et du sabotage de la mobilisation à la veille de la déclaration de la Grande Guerre de 1914, avec un extrait notamment de la brochure En cas de guerre. Mmh. Et en fin de compte, le fil conducteur de toute la compilation de textes, c'est de montrer l'évolution du sabotage depuis sa première formulation par Pouget jusqu'à sa popularisation par d'autres protagonistes. Je pense notamment à Gustave Hervé, qui est connu pour être un socialiste insurrectionnel, pas forcément anarchiste, mais en tout cas qui promeut le sabotage à travers son journal La Guerre sociale dans les années 1907 jusqu'à 1911.
Oui, après, bon, il va mal tourner.
Oui, j'allais dire, il a un passé un peu sulfureux parce qu'il a commencé agrégé d'histoire, donc prof d'histoire. Ensuite, comme il avait effectivement il était un peu un rebelle, donc il ne suivait pas les programmes officiels d'histoire. Il a été, il a démissionné donc de son professorat. Il a ensuite tourné avocat, mais pareil, avocat, il a été plus ou moins mis à la porte. Et donc ensuite, il est devenu journaliste et là, il s'est rendu compte qu'il avait une liberté d'expression un peu plus large. Mais bon, le personnage est problématique dans le sens où, alors qu'il signait ses articles de la guerre sociale, l'antipatriote, lors de la déclaration de la guerre de 1914, il est devenu patriotique et ensuite il a tourné pro-fasciste.
Oui, exact, oui, tout à fait. Et alors, donc ça, c'est le premier livre que j'ai trouvé vraiment très, très, très intéressant, le recueil de textes, parce que j'aime bien ces témoignages d'époque, j'aime bien ce style, j'aime bien la mobilisation. Enfin, on sent que des gens qui croient à ce qu'ils écrivent. La réflexion de la CGT, notamment sur la notion de sabotage, etc., c'est vraiment tout à fait intéressant. Et puis, il y en a le second, tout aussi intéressant, d'ailleurs, mais est plus théorique. C'est peut-être vos études, là, l'histoire du sabotage, des trains de savates aux briseurs de machines, c'est l'enseignement que vous tirez de vos études, non?
C'est-à-dire que c'est plutôt une espèce d'habitus, en fait, de la philosophie, effectivement, qui fait que on cherche toujours à définir les choses avant de commencer à en parler. Et donc, finalement, je me trouvais face au problème que pour définir le sabotage, il faut en faire l'histoire. Et pour en faire l'histoire, il faut avant en posséder une définition pour le démarquer d'autres formes de lutte. Donc, effectivement, l'histoire du sabotage, le tome 1, est plus théorique parce qu'il fallait faire un travail de définition, distinguer sa pratique d'autres formes de contestation, comme la grève et la propagande par le fait des anarchistes. Et donc penser ce qui fait la spécificité du sabotage, montrer comment il se démarque des anciens moyens de lutte. Et donc je dirais que la dimension théorique du travail relève de la volonté d'avoir une définition avant d'en faire l'histoire. Parce que sinon on peut étendre le sabotage jusqu'à des périodes très antérieures à la naissance de la CGT et de son usage politique par Émile Pouget.
Alors, justement, il y a une confusion sur le thème sabotage. Est-ce que ça consiste à tout faire sauter? Est-ce que ça consiste... Bon, d'abord, quelle est son origine? Est-ce que c'est l'histoire du sabot? Que recouvre cette notion?
Oui. Alors, en effet, et pour plusieurs raisons qui s'expliquent historiquement, le sabotage admet plusieurs sens, d'où la confusion. Le premier sens qui vient à l'esprit, c'est celui du sabot dans la machine, le sabot comme la chaussure en bois. En réalité, ni Pouget ni les syndicalistes révolutionnaires n'avaient cette image en tête. Pour eux, le sabotage vient du terme argotique « le sabot », un homonyme de la chaussure en bois, qui désigne cette fois le mauvais travailleur, le tir au flanc. Donc en fait, c'est pas du tout le sabot, la chaussure en bois. C'est vraiment le mot argotique qui signifie « le mauvais travailleur ». Et maintenant, si on s'intéresse à l'étymologie de ce terme, donc du sabot comme mauvais travailleur, de ce terme argotique, on se rend compte non seulement qu'il ne renvoie pas à la chaussure en bois, mais au sabbat dans la culture juive, et qu'il qualifie aussi le sabbat des sorcières au Moyen-Âge, dont on sait que les danses endiablées avaient pour fonction de renverser l'ordre établi et la hiérarchie chrétienne des valeurs. Donc l'origine du sabotage est plutôt à chercher dans toutes les attitudes de paresse, de fatigue simulée, de lenteur, qui visent à diminuer le joug de l'oppression patronale. Au sens premier du terme, le sabotage est plutôt un ralentissement de la cadence ouvrière, et ce n'est que dans un second temps, avec l'arrivée galopante du machinisme et des technologies au service de la grande industrie comme les chemins de fer, que le sabotage a pris le sens d'une destruction matérielle et plus encore sous l'effet de la Seconde Guerre mondiale avec toute la période de la résistance. Mais quant à l'image du sabot, donc du sabot dans la machine qui vient briser les rouages, elle est due à la réception qu'en font les syndicalistes américains, les Woolies, dès 1911, qui prennent en fait le sabot, qui ne comprennent pas que le terme vient de l'argot, mais prennent le sabot comme la chaussure. Et donc, du coup, ils en profitent pour véhiculer cette iconographie du sabot dans les rouages. Du sabot dans la... voilà. Alors, mais donc, en réalité, c'est le sabbat, voilà.
D'accord. Alors, Pougère utilise le terme pour la première fois en 1896, hein, vous le dites, dans son journal La Sociale.
La Sociale.
Et alors, il y a cette célèbre formule à mauvaise paye, mauvais travail. Donc, on est mal payé, donc, on veut dire, on lambine ou on prend les différentes mesures. Vous avez insisté sur la notion de souplesse. Alors, qui est Pouget, finalement?
Pour faire un rapide point, disons, biographique sur Pouget, c'est un jeune qui naît en 1860, pas loin de Rodez. Il a donc 11 ans quand éclate la Commune de Paris. C'est pas le Paris n'est pas la seule ville, on le sait, qui a connu ses remous révolutionnaires. En 71 déjà, à Lyon, l'abolition de l'État avait été proclamée. Après, Marseille, Toulouse, Saint-Étienne, Le Creusot, Limoges, et bien sûr Narbonne où Pouget justement fait la connaissance du communard Émile Dijon, qu'il introduit dans les cercles anarchistes à Paris. Là, Pouget, il accumule les petits boulots, il travaille près de 70 heures par semaine dans les grands magasins, sous le regard d'une bourgeoisie hautaine. Il organise des manifestations sur Paris, il se fait arrêter en compagnie de Louise Michel, qui essaye de le protéger des coups de la police, et finit à la prison de Melun de 83 à 86. Alors tout ça, évidemment, forge un caractère. Quelques temps après sa sortie de prison en 89, il lance un journal, Le Père Peinard, qui entend s'adresser aux gens comme lui, des travailleurs éreintés et révoltés. Mais à cause des lois scélérates, il est obligé de s'exiler à Londres. C'est à ce moment-là qu'il considère qu'il faut que les anarchistes doivent mobiliser les ouvriers, ne pas rester dans un individualisme à l'écart de la société, mais plutôt entrer dans les corporations ouvrières pour dénoncer l'autorité patronale. À ce moment-là, il se lit, on est donc dans les années 94, il se lit, à la fin des lois scélérates, donc 95, il se lit avec Fernand Peloutier, le fondateur de la Fédération des Bourses du Travail, oui, qui fusionne en 95 avec la Fédération Nationale des Syndicats pour donner naissance à la CGT. Et donc Pouget et Peloutier sont tous les deux un peu la colonne vertébrale de la fondation de la CGT.
Pouget est même un des co-auteurs de la charte de Damiens.
Oui, mais la charte de Damiens date de 1906.
Voilà, un petit peu plus tard, hein, bien sûr.
Oui, voilà.
Enfin, c'est
donc,
bien pour montrer son investissement au sein de la CGT et l'anarcho-syndicalisme.
Ce qui est très intéressant, et c'est aussi un parti pris historique aussi, mais c'est de montrer qu'en fait, on a tendance à poser une rupture franche et nette entre syndicalisme et anarchisme. Mais en fait, une fois qu'on remonte aux prémices du syndicalisme, on voit qu'en fait, le syndicalisme a été forgé par des anarchistes qui essayaient de trouver une solution alternative à la propagande par le fait.
Oui, c'est ça. Et vous montrez que le sabotage, en fait, traduit une évolution par rapport aux attentats.
Voilà, alors tout à fait, c'est ça.
Hein, c'est ça. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est que Pouget participe à la rédaction d'une brochure sur des lois qu'il connaît bien. Malheureusement, les lois scélérates, qui permettaient de condamner des, des anarchistes avant même qu'ils aient commis quelques faits délictueux, etc. Et ces lois scélérates, qui sont des lois qui portent atteinte à la liberté de penser, il y a une brochure qui sera rédigée, il y a Francis de Pressensé qui sera un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, il y a Pouget, et puis il y a un juriste, parce que bon, fallait qu'il se cache un peu, parce qu'il était fonctionnaire, c'est Léon Blum. Et c'est une manière aussi, avec cette brochure, de clore cette période et de passer ensuite à une activité syndicale très forte.
Oui. Effectivement, dans cette brochure, Pouget montre que les lois sont applicables en énumérant, parce qu'il y a eu certaines personnes, certains notables qui expliquaient que ces lois, de toute manière, étaient inapplicables, les lois scélérates. En fait, il énumère tout simplement le nombre de victimes qui a pu y avoir pour des simples délits d'opinion, parce qu'en fait les lois scélérates qui sont votées en plusieurs étapes, donc de 93 pour les premières jusqu'à 94, finissent par instaurer un délit d'opinion à propos de l'anarchisme, c'est-à-dire qu'on n'attendait même plus qu'il y ait un fait, mais tout simplement l'expression d'une opinion anarchisante, donc de critique de l'autorité et de l'État, qui était directement sanctionnée de prison, hein, de vraiment, parce que Pouget énumère deux trois personnes qui, parce que dans une soirée un peu trop arrosée, certains chantaient une chanson, la Ravachol par exemple, ou une autre chanson, se retrouvaient au bagne, ou avec des peines très sévères de prison. Et ensuite, ce qu'il montre, et qui est intéressant aussi, c'est que il y a une amnistie. Donc en 95, il y a l'amnistie des anarchistes. Et il montre qu'en fait, une fois que ces lois scélérates sont passées, malgré l'amnistie, la répression continue en chassant et en faisant de la délation des ouvriers à tendance anarchisant auprès des employeurs. Donc il montre que le travail de répression continue de manière insidieuse. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, Pouget se dit, mais peut-être que ça serait intéressant que la lutte devienne un peu plus invisible, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas par des grands coups d'éclat, coups d'engins incendiaires, mais plutôt qu'elle passe par une lutte, un travail de mauvaise grâce, fait de petits gestes qui petit à petit créent une espèce de guerre d'usure contre l'exploitation et l'aliénation au travail. Mmh.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de sabotage ? Je pense par exemple aux demoiselles du téléphone.
Alors effectivement, il y a plusieurs exemples de sabotage. J'en donne dans les deux livres, évidemment, le recueil de textes qui met en lumière plusieurs exemples de sabotage, comme les coiffeurs, par exemple.
Ah oui, c'est là où c'est les coiffeurs, oui. Alors, les coiffeurs, c'est très, très intéressant. Quelle était leur technique aux coiffeurs ?
Oui, donc en fait, les ouvriers coiffeurs travaillaient le soir jusqu'à très très tard, hein, 23h, minuit, sous la demande express du coiffeur patron. Et donc, en fait, les coiffeurs avaient une technique, c'est que les clients qui se pointaient à des heures trop tardives étaient plus ou moins malmenés au niveau du shampouinage. Donc, ils appelaient ça le badigeonnage, par exemple. Donc, c'était une pratique qui faisait que c'était entendu dans la société que et si on allait chez le coiffeur, il fallait éviter d'y aller à partir de 22h.
Mais il n'y avait pas même des petites affichettes en disant « Évitez de venir, vous serez raflé » ou je ne sais pas quoi.
Exactement, bien sûr. Ah oui, il y avait des écriteaux qui étaient apposés dans la rue pour répandre cette idée. Et la pratique suivait qu'effectivement, le manque de respect d'une clientèle bourgeoise pouvait avoir pour conséquence un badigeonnage un petit peu remuant.
Quoi. Voilà. Et alors, les demoiselles du téléphone ?
Alors, il y a aussi les mitrons, les boulangers qui laissaient le pain cuire trop longtemps ou qui laissaient monter les fours à trop de température. Et effectivement, les demoiselles du téléphone, donc il y avait une division très sexiste du travail à l'époque. On considérait que puisque les femmes sont habituées à un travail domestique avec une forte docilité et qu'elles étaient, elles avaient le sens de la précision, les petits doigts, on les mettait, on les à, dans les ce qu'on appelait les centraux téléphoniques, donc c'était les endroits où en fait elle s'occupait de faire la coordination entre celui qui appelle et celui qui doit recevoir le coup de téléphone. Maintenant c'est automatisé avec les commutateurs, mais enfin à l'époque il y avait des gens derrière, c'était vraiment des usines avec des demoiselles uniquement du téléphone qui s'occupaient de ça. Et en fait le sabotage chez les demoiselles du téléphone prend la forme de ce qu'on appelle le masticage. J'appelais pas ça le sabotage, mais le masticage. Le terme est tiré de l'argot des typographes à la base, et il consiste à mélanger les lettres pour rendre un texte illisible. Et lorsque les télégraphistes, donc les demoiselles du téléphone, s'emparent de la méthode, ben, ça consiste tout simplement à dérégler les télégraphes pour les mettre provisoirement hors service afin qu'elles... qu'on puisse pas déterminer d'où provient la panne. Donc c'était vraiment l'idée non pas d'une destruction pure et simple de la machine, mais d'un espèce de mise hors service qui supposait pour être remis en fonction les compétences des demoiselles. Donc c'est vraiment l'idée d'une appropriation en fait des compétences.
D'accord. Alors donc là et ces demoiselles du téléphone, ça va durer jusque dans les années 50. Hein. Puisque
ah oui, non, bien sûr, bien sûr.
Ma mère a été demoiselle du téléphone, c'est pour ça que je suis attaché à cet exemple, et elle me racontait les conditions de travail extrêmement difficiles. On a l'impression qu'on est assis comme ça, mais non, c'était très dur. Et alors oui. Bon, bah, toutes ces idées du sabotage, etc., sont et surtout de la grève générale, puisque ce qu'il faut noter, c'est que la perspective, c'est pas simplement de saboter pour saboter, mais c'est la perspective de la grève générale. Et ces idées vont être emporté dans le flot de la Première Guerre mondiale, et vous citez à plusieurs reprises le livre de Guillaume d'Avranches, là, Trop jeune pour mourir, qui a été publié chez Libertalia en 2014. Elle aboutit pas à cette grève générale.
Non, malheureusement, l'Union sacrée, au nom de l'Union sacrée, la collaboration étroite de l'État avec la CGT au nom de l'effort de guerre, a balayé complètement la contestation. Et face à la menace de la guerre, la lutte au travail s'est complètement estompée. Et ce n'est que dans les marges, mais les marges extrêmes, qu'on retrouve parfois chez les premières organisations anarchistes, qu'on a des plans de sabotage de la mobilisation, mais qui sont difficiles, en tout cas, dont on ne trouve pas trace dans les archives, en raison du fait que, justement, c'est mené de manière très clandestine. Mais on a, en tout cas, des résumés de réunions où on voit que quelqu'un dit, bon, bah, tel fort qui abrite telle compagnie de l'armée doit être coupé de ses liens de communication pour pouvoir désorganiser le commandement, pour pouvoir empêcher le ravitaillement. La tour Eiffel et qui est occupée d'un télégraphe, on doit pouvoir saboter le télégraphe de la tour Eiffel, etc. Donc il y a des projets, mais dans les actes, c'est très difficile d'en trouver des traces.
Oui, il y a une célèbre circulaire confidentielle là, du 28 mai 1909 sur le sabotage des voies de communication. Hein. Elle est contenue d'ailleurs dans le tome, dans le recueil, dans l'anthologie.
Oui, la circulaire, oui, tout à fait. Voilà. J'ai trouvé intéressant de la retranscrire parce qu'il ne reste plus que 3 exemplaires dans les archives de police. Et c'est vrai que son histoire est un peu amusante dans le sens où on n'a jamais su finalement qui avait réellement rédigé cette circulaire. Elle a été envoyée à travers tout le territoire français pour coordonner une action coup de poing de sabotage pour paralyser le pays au niveau des voies ferrées, du transport ferroviaire, les actions ont eu lieu, hein, il y a eu des centaines de sabotages, et en fait, bah, la Sûreté Générale de l'époque, hein, les anciens renseignements généraux, et aujourd'hui territoriaux, ont essayé de démasquer l'organisation qu'il y avait derrière, puisque le papier était signé Organisation Secrète de Combat. Donc on ne sait pas, mais probablement ce sont des groupes affinitaires qui tournaient autour de la figure de Gustave Hervé et donc du journal La Guerre Sociale, puisque en fait c'était le seul journal qui en publiait des extraits.
Et alors, le second tome là, de l'histoire du sabotage, puisque là on a le tome 1 qui vient de sortir, est-ce qu'on a déjà quelques pistes là ? Qu'est-ce que vous allez aborder ?
Oui, tout à fait. Alors, on va dans le tome 2, on est beaucoup plus proche de pratiques plus contemporaines et de l'idée qu'on se fait, disons, que se fait l'opinion publique du sabotage. En fait, ce qui se passe, c'est que toute l'histoire du sabotage peut se résumer à une hésitation perpétuelle entre, d'un côté, une résistance passive, qui est celle du ralentissement de la production promue par Émile Pouget, et une résistance un peu plus active qui relève de la dégradation matérielle. Mmh. Le premier tome montre que l'origine du sabotage est plutôt de l'ordre du ralentissement, et le tome 2 montrera, en fait, quelles sont les raisons historiques pour lesquels le sabotage bascule plus franchement au XXe siècle vers une pratique plus offensive qui conduit de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale aux faucheurs d'OGM, par exemple, dans le cadre de la naissance du mouvement altermondialiste. D'accord. Et donc, je m'intéresserai aussi, dans le deuxième tome, à l'histoire du mouvement environnemental aux États-Unis, qui constitue le berceau de l'écologie radicale avec des groupes comme Earth First, le Front de Libération de la Terre, Deep Green Resistance que publient les éditions Libres, et d'autres groupes plus clandestins qui introduisent pour la première fois un nouveau terme qui est le terme d'écotage, c'est-à-dire de sabotage au nom de la défense environnementale, qui est l'éco-sabotage.
Alors ce bouquin sort quand, là, le tome 2 ?
En juin.
En juin ? Bon, parfait.
En juin.
Hein? Parfait. Alors, écoute, Victor, merci pour cet échange. Donc, on vous attend pour le tome 2, et puis on va le lire avec intérêt, et puis on se retrouvera sur cette antenne. Hein?
D'accord, très bien. Ben, merci à vous.
Merci. Allez, au revoir et à bientôt.
Au revoir, à bientôt. Merci.
Frédéric, tu nous passes, on va passer la dynamite des quatre barbus, ça va nous faire plaisir, ça.
Il est un produit merveilleux, expérimenté par la science, et qui vaut nous les miséreux. Tant mieux s'il éclate parfois, en faisant beaucoup de victimes, chez nos ennemis les bourgeois. Cela nous venge de leur crime. Placer une marmite bourrée de dynamite, quelle que soit la maison, en faisant explosion, en commet ira vite. Pour inspirer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite. On guillotinera Vachon, un copain qui avait de l'envergure. Aujourd'hui c'est un Espagnol qu'on fusille pour son allure. Palace montrera à son tour qu'il était un homme invincible. En plus il promettait qu'un jour la vengeance serait terrible. Vive la dynamite, puisque l'on nous irrite. À chaque exécution, nous mettrons en action notre arme favorite. Car pour semer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite. Vous pouvez dresser l'échafaud, la potence et la guillotine. Nous avons ce qu'il nous faut pour vous faire sauter en sourire. Si vous croyez que ça finira, vous êtes loin de votre affaire. Pour
bonhomme qu'on nous tuera. Nous en foutrons 500 par terre. Avec la dynamite, nous répondrons de suite. Caserneuses et prisons, sans flûte, sans violon, danseront au plus vite. Car pour semer la terreur,
il n'y a rien de meilleur
que la dynamite.
Alors je rappelle le titre des deux livres de Victor Cachard que vous pouvez bien évidemment trouver chez Publico, la librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot, Paris 11e. Les livres, donc les titres, Émile Pouget et la Révolution par le sabotage, ainsi que Histoire du sabotage, tome 1, tous les deux publiés aux éditions Libres en 2022. Vraiment, c'est tout à fait intéressant, tant sous l'angle historique que pour réfléchir sur ce qui s'est fait et notamment l'évolution de la pensée. Donc, les titres des ouvrages, si jamais nous les énonçons trop vite, je vous rappelle que vous pouvez les retrouver sur le blog du groupe Commune de Paris, de la Fédération anarchiste, et les commander à Publico, je l'ai dit à l'instant. Troisième temps de l'émission, un roman. Ce qu'on appelle un peu les romans de la vie. Alors Frédéric, tu vas nous présenter un livre qu'on a trouvé là aussi chez Publico, c'est toi qui l'a trouvé. Alors dis-nous tout.
En effet, voilà, je vais vous parler, d'ailleurs je vais vous souhaiter bonsoir ou bonne fin d'après-midi, chères auditrices et auditeurs. Alors aujourd'hui, un ouvrage en format poche. Le travailleur de l'extrême, Danke Anstalling. L'auteur a choisi, je dirais avec talent, un ton humoristique pour broster un état des lieux, des jobs de bouse de taureau. De bullshit jobs. En gros, des boulots de merde. Quoi de mieux que l'humour et la dérision pour dénoncer le monde du travail qui est grand pourvoyeur de ce type de boulot mal payé, hyper précaire et mal considéré. Le récit se passe principalement dans le milieu de la grande distribution. Si vous savez ces lieux où on achète des choses et qui vous ratissent, vous tondent, vous vampirisent votre porte-monnaie, fait fondre votre carte de votre compte en banque et grille carrément votre carte bancaire. Le monde merveilleux des petits chefs incompétents, qui bien évidemment vous considèrent comme un travailleur jetable et donc forcément bête à manger du foin. Et s'étonne que vous ne compreniez pas ce qu'on attend de vous dans le poste de travail que vous occupez alors qu'on ne vous donne même pas le début du commencement d'un minimum d'informations pour bien mener votre tâche illogique et inutile et qui forcément va vous mener à l'échec et vous sanctionnera alors que vous n'êtes pas formé. Une joyeuse description des bizarreries de Pôle emploi. Si, vous savez, cet organisme censé vous aider, vous soutenir, vous accompagner pour retrouver un emploi de merde, mais pas longtemps, parce que depuis la réforme de l'assurance chômage, vous verrez qu'en effet, on ne vous accompagnera pas aussi longtemps qu'auparavant. Autre joyeuseté, le monde merveilleux des formations professionnelles, qui sont souvent, elles aussi, orientées et dirigées par Pôle emploi. Elles aussi, ces formations professionnelles qui sont censées vous aider à retrouver une confortable ascension dans le monde féerique des boulots de crotte. Souvent, on se prend à ricaner parce que l'auteur est malicieux et arrive à se moquer des chefs. Et aussi, en fait, tellement on se rend compte de la crétinerie du système de plus en plus présent dans le monde du travail qui a servi un nombre croissant de travailleuses et de travailleurs. Une note d'espoir termine ce livre. Voilà, donc, comment voulez-vous aussi arriver à 64 ans avec des boulots aussi précaires et qui usent forcément les corps? Donc, ce que je peux vous dire en conclusion, allez tous dans la rue le 19. Voilà, je termine mon intervention par la phrase rituelle. Je ne peux que vous conseiller ce livre. Le titre, Le travailleur de l'extrême. L'auteur, Anke Anstalning, 114 pages, édition CMDE. Notez bien CMDE, parce qu'avant elles étaient éditées chez un autre maison d'édition, prix 10 euros. Elle n'est plus au catalogue de la librairie Publico. Néanmoins, vous pourrez éventuellement envoyer un mail ou téléphoner ou vous présenter pour commander directement à Publico. Vaut mieux commander chez Publico qu'ailleurs. Voilà, je repasse le micro à Francis.
Merci Frédéric. Quand j'entendais notre ami Fred, là, je me disais que ce livre me faisait penser à un ouvrage de Graeber, le sociologue américain, qui dénonçait aussi ces métiers inutiles, plutôt dans le monde de l'administration. Lui, c'était la bureaucratie, mais finalement, le monde de l'entreprise, c'est un peu la même chose. Alors, en attendant, notre ami Dominique, je voudrais revenir sur un livre consacré aux réfugiés espagnols à Rivesaltes. On va commencer par présenter ce livre. C'est intéressant parce que ce sont des enfants qui témoignent. Alors, je rappelle le contexte, le froid, la neige, la marche forcée avec les troupes franquistes aux trousses vers la France, considérée comme l'espoir, vous savez, le pays des droits de l'homme. Eh oui, c'est ce que nous sommes en train de raconter, de décrire, c'est la rétirade. Des milliers de personnes fuient et arrivées à la frontière sont dans un premier temps bloquées au col en plein mois de janvier-février 39. Puis, dans le chaos improvisé, elles sont dirigées vers des camps de concentration comme l'administration française les appelle. Et oui, déjà, on avait trouvé le terme, camp de concentration. 18 000 personnes passeront par celui de Rivesaltes dans les souffrances, la faim, les séparations imposées aux familles, le mépris et la xénophobie d'un certain nombre de responsables français. Le mémorial de Rivesaltes publie, avec les éditions Loubatière, le livre de Geneviève Dreyfus-Armand, « Les républicains espagnols à Rivesaltes », et c'est le sous-titre qui doit retenir notre attention. « D'un camp à l'autre, leurs enfants témoignent ». Et oui, les parents sont aujourd'hui décédés, ils ont été oubliés par la République française, quand bien même ils furent nombreux à poursuivre le combat contre le fascisme dans la résistance, ils étaient dans la résistance, et parfois pourchassés par les collabos français, ces collabos qui furent la honte et qui sont toujours la honte du pays des droits de l'homme. Alors, des femmes, des enfants sont parqués dans ce camp, ballottés vers d'autres noms sinistres comme celui de Gurt, de Pire, celui d'Argelès. Les hommes sont envoyés sur des chantiers. Et puis, les enfants racontent les souffrances, ils racontent aussi des mères courage qui manient le collectif, la solidarité et qui savent pourquoi elles se sont battues en Espagne. Et les enfants restent en France, pour la plupart naturalisés quand ils comprennent que le retour n'est pas proche. Il faut défaire la valise. Ben oui. Ils gardent souvent la culture politique de leurs parents. CNT pour les uns, UGT pour d'autres, PSOE, FAI. Ils acquièrent aussi une culture française. Et les témoignages sont durs, vous verrez au fil des pages. Plusieurs relèvent le sort réservé aux Juifs vers la Shoah, la déportation des pères espagnols vers Mauthausen. Vous retrouverez les scènes terribles du passage à la frontière. Ces cols, je les ai parcourus quelques-uns, c'est cet été, et je songeais à l'époque à l'épreuve que ça a dû représenter au cœur de l'hiver. Et je renvoie au livre de photos « Chemin de l'exil » édité par l'association du 24 août, cette association qui porte la mémoire de la Nueve, la troupe de républicains et d'anarchistes qui arrive la première des troupes françaises rentrant dans Paris en 1944. J'ai commenté ce livre de photos très, très intéressant, passionnant. Je l'ai commenté lors de l'émission du 28 septembre 2022. Alors, lisez aussi les témoignages des avions fascistes, nazis, qui s'entraînent à bombarder les colonnes de réfugiés comme ils le feront plus tard, pendant l'Exode. Et vous n'oublierez pas non plus le regard de ces enfants enveloppés de couvertures dans le froid. Oui, Rivesaltes, ce fut absolument odieux. Et cette guerre d'Espagne est absolument odieuse, nous le savons tous. Et je conclurai avec, encore une fois, Albert Camus. Vous savez l'attachement que Camus avait à l'égard de la République espagnole. C'est cela sans doute qui explique que tant d'hommes dans le monde aient ressenti le drame espagnol comme une tragédie personnelle. C'était une guerre de liberté. Donc je conseille ce livre, Geneviève Dreyfus-Armand, Les Républicains espagnols à Rivesaltes, d'un camp à l'autre, leurs enfants témoignent. Paru aux éditions Le Mémorial de Rivesaltes avec les éditions Loubatière en 2020. Alors on a parlé colonisation, on a parlé lutte sociale, on a parlé guerre d'Espagne, on a parlé souffrance. Et si on essayait un petit peu d'avoir un peu plus de douceur, autrement dit un moment de poésie. Alors c'est notre rubrique Le son des mots, et ce moment de poésie, c'est avec Dominique. Est-ce que Dominique est en ligne?
Oui, tout à fait.
Alors merci. Dominique, bonjour. Alors tu vas nous parler d'un livre d'Anna de Noailles, Le cœur innombrable, qui est sorti chez Bartilla en 2022.
Oui, alors, mais avant, oui. Je voulais quand même rendre un petit hommage à Russell Banks.
Oui.
Bon, c'est pas très gai non plus, mais avant Anna de Noailles, je voulais quand même saluer ce grand écrivain qui est publié chez Actes Sud depuis très longtemps en France. Il est vraiment apprécié en France. C'est vraiment un grand auteur américain qui a décrit toutes les injustices de la société américaine, surtout la classe moyenne. Injustice occultée par les Américains eux-mêmes. On pourrait dire qu'il y a une contradiction parce que Banks a souffert dans son enfance. C'était une famille pauvre, 14 enfants, le père les a quittés et il a lui-même bénéficié de ce grand rêve puisqu'il a réussi à devenir écrivain. Mais il garde quand même un œil très critique sur cette société. Je vous lis juste un extrait. La littérature m'a donné un sens à mon existence. C'était capital, j'étais un jeune garçon violent, sortant d'une enfance agitée, marquée par le spectacle de l'alcoolisme, le divorce de mes parents. J'étais le reflet d'un milieu brutal et impitoyable. Je répète souvent que si je n'avais pas découvert la littérature, je serais mort sur un parking à la sortie d'une boîte de nuit, lors d'une bagarre à 3h du matin. Donc voilà. Et je recommande la lecture de ces nouvelles, si vous ne connaissez pas cet auteur, de commencer par les nouvelles qui s'appellent, notamment le recueil qui s'appelle « Un membre permanent de la famille ». Ensuite, de lire « Sous le règne de Beaune ». Et je recommande également, parce que c'était aussi un grand voyageur, je recommande le livre sur la Jamaïque, qui s'appelle « Le livre de la Jamaïque ».
Donc, c'est chez Actes Sud.
Oui, chez Actes Sud. Mais je pense qu'on fera quelque chose de plus... Oui. Développer plus tard sur lui parce qu'il le mérite vraiment. Bon,
alors,
comme tu disais, nous allons passer à quelque chose de plus doux.
Oui.
Alors, c'est les éditions Bartilla qui viennent de rééditer le premier recueil des poèmes d'Anna de Noailles, recueil qui avait été édité à l'origine chez Calmant-Lévy en 1901. Donc, Le cœur innombrable. Alors, cette poétesse est un peu tombée dans les oubliettes de la poésie. Elle est née à Paris elle est née en 1876 jusqu'à sa mort en 1933. Alors, d'origine gréco-roumaine, son père est issu d'une grande famille de la noblesse roumaine et elle reçoit une éducation francophone. Elle parlait quatre langues. Alors, elle épousa très, très jeune le comte de Noailles. Et dès son premier recueil, Le cœur innombrable, elle fut couronnée par l'Académie française et admirée par Marcel Proust, qui en fait un personnage dans Jean Santeuil, et par Léon Blum. Son salon était fréquenté par de nombreux écrivains, Colette, Gide, Paul Valéry, Pierre Loti, Max Jacob, Cocteau. Alors, elle fut oubliée comme les autres femmes du 19e siècle qui étaient poétesses, Marceline Desbordes-Valmore, Lucie de la rue Mardrus ou André Vivien. C'est elle qui a créé le prix littéraire Vie Heureuse, qui est en fait l'ancêtre du prix Femina, avec Séverine, hein, dont vous avez parlé il y a quelque temps.
Oui, au mois de décembre, début décembre, oui.
Oui. Judith Gauthier et Jeanne Dieulafoy, qui étaient aussi des, qui sont aussi tombées dans les oubliettes de la littérature. En recherchant, je les ai retrouvées. Judith Gauthier était la fille de Théophile Gauthier et l'épouse de Catulle Mendès. Elle fut la première femme à entrer dans l'Académie Goncourt et elle a publié énormément, hein, de romans et de poésie. Et Jeanne Dieulafoy également, elle archéologue, femme d'un archéologue célèbre. Bon, ce sont toujours leurs maris qui ont été connus et pas elle. Et elle obtint une permission de travestissement afin de s'habiller en homme, ce qui lui permet de suivre son mari dans...
Attends, tu
dans
peux expliquer fouilles. Ça, c'est pas très clair, ça.
Alors, tu sais qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas s'habiller en homme,
oui.
Ne pouvaient pas mettre un pantalon. Donc, elle a obtenu une permission de travestissement par la préfecture de police de Paris. C'est quand même incroyable. Et ce qui a permis de suivre son mari dans des fouilles en Perse, et même à la guerre de 1870.
Donc c'est le préfet de police de Paris qui permet à une femme qui part au fin fond d'Orient de pouvoir porter le pantalon. C'est quand même,
oui,
on est dans
ça.
Un autre
oui.
monde. Hein.
Oui,
et,
oui.
et dans l'exposition qui se termine, la Parisienne citoyenne, il y a aussi l'autorisation pour Madame Rosa Bonheur, le peintre Rosa Bonheur, de pouvoir porter le pantalon parce que c'est justifié par le fait qu'elle aille dans la campagne. C'est extraordinaire, ça.
Oui, oui, oui. Bon, alors donc, Anna de Noailles fréquentait ces femmes. Alors, c'était pas une hyper-féministe. Hein. Sa poésie est très classique. Elle n'invente rien comme Mallarmé. Elle est plutôt dans la lignée de Ronsard, Vigny, Lamartine. Alors, elle exalte l'amour de la France et de ses paysages. D'ailleurs, le cœur innombrable est dédié au paysage ardent et limpide d'Île-de-France et non à une personne. D'habitude, on dédie le livre à une personne. Là, il est dédié à des paysages. Hein. C'est quand même pas banal.
Et quand on y pense, ça me fait penser, enfin, ça me fait songer à des poèmes de Paul Fort. Paul Fort, un peu oublié, lui aussi, aujourd'hui,
oui,
qu'on a appelé le prince des poètes, qui était un grand ami de Brassens. Et dans son livre Ballade française, il a le même style comme ça pour l'île de France, c'est beau, l'Essonne, c'est beau, c'est vrai que c'est pas si mal l'Essonne. Hein.
Oui.
Bon, il y a tout un tas de voilà, il y a un lien à ce moment-là sur le pays de France. Oui.
Oui, oui. Alors, elle exalte aussi le désir. Donc, sa phrase la plus célèbre, c'est « Toi, vie, sois innombrable à force de désir, de frissons et d'extase », tout un programme. Et dans le cœur innombrable, elle prononce 87 fois le mot « cœur » en l'associant à chaque fois au paysage, à l'âme, à l'esprit, au jardin, au vallon. Alors, il y a quand même des poèmes où elle est très sensible aux injustices sociales, notamment un poème qui s'appelle « La justice ». Je vous lis juste un quatrain. Vous êtes le proscrit, vous n'êtes pas coupable d'avoir pris cette grappe et dérobé ce blé, puisque j'ai tous les jours, sans effort, à ma table, le pain et le plaisir que vous avez volé. Donc elle reconnaît qu'elle est d'une classe sociale aisée, hein, mais elle n'oublie pas les classes plus défavorisées.
Oui.
Elle a aussi un poème qui s'appelle « Les malheureux ». Blessé de la chaleur et tourmenté du froid, vous passez foule grave et toujours étonné, sachant que vous n'avez de place en nul endroit et que vous trouverez dans la mort fortunée la jouissance exacte et sûre de vos droits.
Il y a un peu du verre à Rennes là-dedans.
Oui, du verre à Rennes, oui. Oui, effectivement. Alors, elle adore aussi, il y a plein de poèmes sur les vergers, hein, à tel point que les moqueurs la surnommeront la muse potagère. Alors, aujourd'hui, elle serait très à la mode. Hein. Donc, je vous cite un quatrain. Dans le jardin, sucré d'œillets et d'aromates, lorsque l'aube a mouillé le serpolet touffu et que les lourds frelons suspendus aux tomates chancellent de rosée et de sève pourvus. Et d'ailleurs, il y a un jardin qui lui est dédié près d'Évian parce qu'elle adorait le lac Léman. Alors, à la fin de sa vie, c'était aussi une femme inquiète. Hein. Elle s'est mise à lire Nietzsche et ses poèmes sont plus douloureux, hein, et plus tragiques. Mais c'est vraiment une belle redécouverte, on va dire, parce que, comme je vous disais, elle est tombée un peu dans les oubliettes. Hein. Alors, Octave Mirbeau, hein, se moquait d'elle, parce qu'il paraît qu'elle parlait beaucoup dans les salons. Hein, et elle avait beaucoup de nombreuses femmes qui l'encensaient sans cesse. Je vous cite, je termine là-dessus sur Octave Mirbeau. Nous avons en France une femme, une poétesse qui a des dons merveilleux, une sensibilité abondante et neuve, un jaillissement de source, qui a même un peu de génie. comme nous serions fiers d'elle, comme elle serait émouvante, adorable, si elle pouvait rester une simple femme et ne point accepter ce rôle burlesque d'idole que lui font jouer tant et tant d'insupportables petites perruches de salon. Voilà, elle a cette réputation de...
C'est intéressant quand même, de simple femme.
Oui.
Oui, vous avez 3 heures, là, c'est un sujet de disserte, là. C'est...
Oui, oui, bon... Voilà, mais bon, elle était quand même aimée.
Surtout, c'était une femme qui comptait à l'époque, et tu as parlé de son travail avec Séverine et d'autres, d'autres écrivains, écrivaines. Donc ça, c'était effectivement important. Eh bien, écoute, merci pour ce livre. Donc, Anna de Noailles, Le cœur innombrable, aux éditions Bartilla, sorti en 2022. Est-ce que tu peux nous annoncer le livre dont tu nous feras part la prochaine fois?
Oui, alors je voulais parler d'une autrice qui n'est pas très connue, qui s'appelle Jolan Foldes, qui a écrit un livre qui s'appelle La rue du chat qui pêche.
D'accord.
Et c'est une, elle raconte comment les immigrés hongrois arrivés entre deux guerres en France ont eu du mal à s'intégrer.
D'accord.
Et toutes les moqueries qu'ils ont subies, et bon, qu'on peut aussi voir aujourd'hui avec d'autres populations.
Ouais, très bien. Bah, écoute, merci Dominique, et puis on se retrouve fin janvier pour notamment présenter ce livre. Allez, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Dernier ouvrage, il est... Oui, ça va, on a encore le temps. Dernier ouvrage, j'ai parlé tout à l'heure des républicains espagnols et j'ai pensé que Léoné Ginzburg avait toute sa place dans la mémoire des antifascistes. Alors, qui est ce monsieur? Eh bien... Comment affronter, la question c'est ça, c'est comment affronter le fascisme de Mussolini quand on est un jeune intellectuel juif né à Odessa en 1913, en partie de culture russe et de nationalité italienne. Léoné Ginzburg ne s'interroge guère longtemps. Pour lui, la culture constitue une ouverture au monde, un rempart contre ce fascisme qu'il ne supporte pas. En 1926, l'Italie est désormais fasciste, c'est-à-dire sous un régime autoritaire, nationaliste, qui a recours à la violence. Ce régime rejette les institutions démocratiques et libérales et pratique la répression sous toute forme d'opposition, ainsi qu'un contrôle politique extensif de la société civile. C'est la définition que va donner l'auteur Florence Moreau de la biographie de Ginzburg, un intellectuel contre le fascisme, publiée récemment chez Greafi Édition. Alors, ce livre est d'une actualité rare qui fait parfaitement ressentir le climat lourd de menaces, de contrôles, d'arrestations, d'emprisonnements, de trahisons imposées par le fascisme. Et suivons Léoné. Il arrive en Italie. Il suit des études à Turin. Les professeurs défendent des thèses libérales et socialistes. Certains seront assassinés, comme Piero Gobetti. Est-ce que ça va faire reculer ce jeune garçon? Non, au contraire, il intègre des groupes de jeunes intellectuels. Il ne prend pas les armes. Pour lui, s'ouvrir au monde, à la culture, notamment slave, c'est s'opposer au repli sur soi qu'est le fascisme. On traduit, on s'oppose. Comment mettre en place une religion de la liberté? Eh bien, il rejoindra la résistance. Il rejoindra un mouvement qui s'appelle Justitia et Libertà. Il soutient un libéralisme politique fondé sur une base éthique et la capacité à développer une démocratie sociale. Son intransigeance le conduit à refuser de prêter serment comme enseignant, tant qu'il refuse de prêter serment de fidélité au régime. Alors là, pas de cadeau de la part du pouvoir. Il rejoint pourtant une maison d'édition. Il va développer une revue, La Cultura. Il va adopter la formule « Spiritus durissima coquit ». La culture peut aider à digérer les temps durs. Les contrôles policiers se développent. Il est arrêté en 1934, relâché en 1936. Il va être exfiltré dans un endroit des Abruzzes, et là, un village perdu, sa famille le rejoint. Il y a de très belles pages,
dans ce livre, sur la magnifique communion entre Léon et Natalia, son épouse, centrée sur les livres, l'écriture, la traduction, le maître mot de leur vie. Évidemment, il y a la peur, la faim, la froid, c'est pas le froid. Et c'est pas facile d'être indésirable dans son propre pays. Alors, enfin, Mussolini, en septembre 1943, Mussolini est renversé. Les Allemands envahissent le pays jusqu'à Naples. Léoné est arrêté à Rome, où il fondait un journal clandestin. Torturé, il meurt le 5 février 1944. Lui aussi demande dans une lettre à Sandro Pertini que l'on ne confonde pas les nazis et le peuple allemand. Il ne faudra pas en vouloir au peuple allemand. Oui, cet homme se situait dans la pleine tradition de l'Europe des Lumières qui défendrait les valeurs de justice et d'humanisme. Et pour reprendre une formule de Giovanni De Luna, universitaire, historien spécialisé sur cette période, la lutte de Leone se déroulait dans la vie, sous la lumière du soleil. Un très beau livre, là aussi, une vie passionnante, un intellectuel contre le fascisme, Léoné Ginzburg, Gréafis Édition, publié en 2022. Écoutez, il est 18h24, on va considérer que c'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre attention et votre fidélité. Donc, comme je vous l'ai dit, nous ferons tout ce que nous pourrons pour continuer les émissions en direct. Et dans 15 jours, le mercredi 25 janvier 2023, ce sera une émission consacrée notamment à un quartier de Paris, à une époque où le carrefour Vavin était le carrefour du monde des arts, et nous croiserons Soutine, Modigliani, Hemingway, Paul Fort, dont je parlais tout à l'heure, Apollinaire, grâce au très beau livre « Montparnasse, quand Paris éclairait le monde », paru chez Albin Michel en 2022, et nous aurons le plaisir de recevoir son auteur, Mathieu Lebal. Et d'ici là, bah écoutez, en ce début d'année, nous vous souhaitons ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré, et nous vous laissons dans de bonnes mains avec l'émission qui va suivre. En attendant, Léo Ferré, ni Dieu ni maître, à bientôt et au plaisir de partager.
Avec la peur qui tend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service, cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître, cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style ce
gris qui n'a pas la rosette. Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite, ni Dieu